Maintenant, on écoute.
Ce qu'on a vécu, ça va être violent à écouter, mais la moindre des choses, c'est de l'écouter.
Le silence n'a jamais été sans violence.
Sors du silence.
Le silence est une immense violence.
Soyez prêts à écouter, même si ça fait peur, soyez prêts. On l'a vécu, vous pouvez l'entendre.
Faut que ça s'arrête.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un épisode spécial de Maintenant on écoute, en direct de l'AG radiophonique de Radio Campus Amiens. Vous pourrez retrouver en réécoute cette émission sur le site radiocampusamiens.fr. Autour de la table, Inès.
Salut.
Aline.
Salut.
Sonia.
Salut.
Et moi-même, Colline. Avant de continuer, on voulait vous prévenir que cet épisode va traiter des violences sexistes et sexuelles et certains propos pourront heurter la sensibilité des auditeurices.
Cela fait maintenant plus d'un an que nous donnons la parole aux victimes et aux professionnels qui luttent contre les VSS. Alors quand on nous a demandé de présenter Maintenant en écoute pour l'événement, on s'est creusé la tête. On s'est dit qu'il serait intéressant de vous parler de nos perspectives d'amélioration pour ce long format radio qui nous tient à cœur. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de devenir un vrai relais local de la parole des victimes pour donner davantage de visibilité aux témoignages. C'est pourquoi nous recevons Stéphanie autour de la table. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Bien sûr. Je suis donc Stéphanie, j'ai 20 ans. Actuellement, je passe mon BAFA. Sinon, j'écris énormément, j'écris beaucoup et je compte reprendre des études de cinéma par la suite.
Et tu as accepté de venir parler de ton vécu à l'antenne. C'est lors d'une session slam que tu es venue déclamer un texte fort. Tu l'as déclamé sur scène et tu as accepté de le refaire avec nous ce soir à la radio. On t'écoute.
Allez. Chaque jour, durant 2 semaines, chaque jour, je ne vivais que de haine. Un couple nantais me violait. Je pensais pourtant qu'il voyait ma peine. Il me violait dans une ferme isolée. Vous expliquer comment je suis arrivée dans ce merdier serait sans doute un peu abusé. Lui se trouvait derrière moi. Elle me tenait les bras. La tête contre l'oreiller, les yeux horrifiés, mon cœur et mon corps paralysés, je n'étais que vidée. Je sais pas vraiment rimer, mais je vous jure, ils m'ont déshumanisée. Je suis souvent hospitalisée et je dois souvent raconter. Raconter que j'ai vécu l'enfer, un enfer qu'on peut même pas imaginer. Je raconte qu'on m'a sodomisée. J'avais 17 ans, j'ai jamais dit que je voulais. Mon corps était devenu un objet qu'on partage, un silence qu'on écrase. Ils me détruisaient comme si c'était une habitude. Et que vous dire de leur attitude ? Moi, je comptais les secondes et eux répétaient qu'ils le faisaient avec tout le monde. Je me levais, ils me violaient. Je finissais de manger, il me violait. Je me couchais, il me violait. Mais quand est-ce que cet enfer se terminerait et ils auraient pu me tuer, je pensais qu'ils me tabasseraient. Hélas, ils ne m'auraient jamais laissé en paix. Pour ne pas laisser de traces, ils auraient pu effacer ma place. Mais ils m'ont ramenée à la gare, sans faire d'histoire. Et je suis là, devant vous, vivante, mais pourtant morte. Comment peut-on violer quelqu'un chaque jour, moi qui n'ai toujours été qu'amour, et dormir paisiblement chaque nuit, tandis que moi, je ne rêve que de perdre la vie. Et me voilà, devant vous, avec ma peine que j'ai fini par vous avouer. Et ma psy, elle me dirait « Ah bah Stéphanie, tu l'as fait. »
Merci beaucoup Stéphanie, c'est très dur de faire la transition. Merci d'avoir eu le courage à la fois de le faire sur scène et de le faire là en direct, à la radio. Est-ce que tu te sens à l'aise pour continuer l'émission ?
Oui, merci.
Est-ce que tu peux nous parler, si tu es à l'aise, bien sûr, un petit peu plus de ce que ton texte évoque ?
J'ai été violée par un couple, alors que je voulais juste les aider à travailler dans une ferme. Ils avaient mis une annonce sur Facebook où ils cherchaient une jeune personne pour les aider. J'y suis allée et chaque jour, ils m'ont violée.
Et on va commencer par le contexte de l'écriture. Pourquoi tu as eu besoin de mettre ça sur papier ?
Je pense que le mettre sur papier, c'est aussi finir par l'accepter soi-même. Et se dire oui, c'est arrivé en fait.
Et comment t'as fait pour choisir les bons mots?
Comme j'ai l'habitude d'écrire et que j'aime beaucoup écrire, c'est arrivé très vite. Tout a été très rapide, mais j'ai quand même beaucoup réfléchi parce que j'ai toujours trouvé que c'était peut-être trop violent, certains mots, mais en fait, quand on veut raconter quelque chose qu'on a vécu qui est violent, on est obligé d'utiliser des mots violents.
Et est-ce que tu prévoyais de le déclamer ou c'était juste, tu comptais juste le garder sur papier?
J'aurais jamais pensé le dire un jour. Et non, je ne pensais pas.
Et pourquoi avoir choisi le slam?
Ça m'est tombé dessus. Les maquisards à Amiens faisaient un événement et de slam. Je me suis dit que c'était le bon moment.
Et là, qu'est-ce que ça te fait de le transmettre au public?
Moi, ça fait du bien. Ça fait du bien de l'avouer, de le dire. Et c'est surtout pour les autres aussi. Il faut que la parole se libère. C'est pas facile. J'ai réussi à le faire et j'en suis fière.
Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien revenir sur ce que raconte ton texte un peu plus en détail, si tu le veux.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a pu t'arriver? Je sais que tu l'as un peu dit en quelques phrases, mais comment tu t'as été forcée dans cette situation? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu?
Je pense que comme beaucoup de jeunes, j'avais envie de découvrir de nouvelles choses et de faire d'autres expériences, donc professionnelles. Et je me suis dit que le monde agricole, c'était intéressant. Donc, je suis allée dans une ferme pour aider un couple. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au fin fond de la campagne avec eux.
Et à ce moment-là, tu n'avais aucune porte de sortie, je suppose. Tu n'as pas pu échapper à ces personnes-là?
Non, du tout. Parce que je disais que c'était à Nantes, mais en fait, c'était 30 minutes de Nantes dans une campagne vraiment perdue. Il n'y avait rien aux alentours.
Tu avais un accès, demander de l'aide? Est-ce que tu as pu imaginer à un moment donné appeler quelqu'un à l'aide, appeler la police, appeler quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de tes amis?
Je pense qu'il y avait un mélange de peur et aussi je ne réalisais pas vraiment sur le moment ce que je vivais. Je ne me voyais pas du tout appeler quelqu'un parce qu'ils me faisaient très peur, ces gens-là.
Quand tu dis que tu ne réalisais pas ce qui t'arrivait, c'était quoi ton sentiment à ce moment-là? Alors que pour toi, c'était quoi ce qui se passait?
Je savais que ce n'était pas normal et que je n'étais pas OK avec ça. Mais mettre le mot viol sur ce que j'ai vécu, ça a mis très 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 longtemps. C'était très long de réaliser.
Ça a mis beaucoup de temps. Tu as eu besoin d'aide pour mettre certains mots sur ce qui t'est arrivé, par exemple?
Oui, j'ai eu besoin d'aide de professionnels de la santé et de psychologues aussi.
Quand ils t'ont ramené à la gare, c'est comme ça que tu le dis dans ton texte, comment ça s'est passé ton retour? Je ne sais pas si tu es revenu à Amiens, etc. Mais est-ce que tu as réussi à en parler rapidement? Quel a été un peu ce déclic?
Alors, quand je suis rentrée à Amiens, je disais à tout le monde que ça s'était très très bien passé, que j'avais passé 2 semaines extraordinaires, parce que je ne voulais pas inquiéter et parce que je voulais me voiler la face aussi et oublier. Et puis, c'est revenu finalement.
On va continuer avec les prochaines questions.
Est-ce que tu as pensé à un moment donné à en parler à la justice, par exemple?
Oui, j'y ai beaucoup pensé. Mais la peur du jugement aussi, du corps policier. Mmh. Et je sais que c'est très long et je n'ai pas eu le courage, je pense.
C'est la peur de qu'on on reçoive mal ta parole, finalement.
Oui, peur de ne pas être écoutée et pas comprise et pas crue.
Je pense que ça dit beaucoup aussi, ça dit beaucoup de la réception des paroles des victimes, de comment on traite les victimes aujourd'hui dans cette société et dans énormément de sociétés. Toi, aujourd'hui, comment tu te sens maintenant, après tout ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu te sens?
C'était il y a 4 ans et j'y pense quand même tous les jours. Mais ça va mieux dans le sens où j'arrive à en parler et j'arrive à mettre des mots dessus. Je suis suivie quand même par un psychologue, je fais une thérapie, mais j'avance doucement. Malgré toutes ces années, c'est encore compliqué.
Est-ce que, par exemple, si tu pouvais faire passer un message à une jeune fille ou peut-être même un jeune garçon qui pourrait se retrouver dans la situation que tu as vécue. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, par exemple,
après l'avoir vécu? Je dirais qu'il n'est pas seul. Que même si c'est très difficile d'en parler, et même si ça prend du temps, c'est très important de le faire. Et qu'il trouvera toujours du soutien quelque part. Il ne faut pas rester seul.
C'est un petit peu ce que tu fais aujourd'hui aussi, du coup. C'est aussi ne pas être seul et transmettre la parole.
Exactement, c'est pour ça que j'en parle.
Et est-ce que tu peux me dire ce que ça te fait un petit peu d'aujourd'hui, transmettre la parole? Tu sais que c'est diffusé en direct, voilà, c'est quand même une prise... Enfin, c'est courageux. Tu peux me dire un petit peu ce que toi, tu ressens par rapport à ça?
C'est stressant, évidemment, de parler de quelque chose de si dur qu'on a vécu, mais... Ça fait du bien, ça libère. Et là, je me sens écoutée. Et ça, c'est important.
C'est un petit peu le principe de cette émission. En tout cas, nous, on est hyper contentes de t'avoir reçue. On va peut-être passer à la deuxième partie d'émission.
On va passer à la deuxième partie de l'émission. Donc, Stéphanie, tu restes avec nous. On voulait vous parler d'une association avec qui nous avons régulièrement eu des échanges.
Oui, tout à fait. Alors, on va vous parler du planning familial qui nous a beaucoup aidé tout au long de l'année en intervenant dans quelques épisodes de Maintenant on écoute, notamment pour l'épisode sur les violences gynécologiques. Nous avions lancé un appel à témoignages relayé par l'association, ce qui nous a aidé à recueillir la parole de plusieurs femmes. L'objectif que nous souhaitons avec cette émission, c'est de devenir, comme on le disait un peu plus tôt, un véritable relais local de la parole des victimes. Et c'est pourquoi continuer de témoigner et de s'entraider est plus que nécessaire.
Alors, on a jugé très important, enfin même plus qu'important, de recevoir une des bénévoles du planning familial. Et je vous propose d'écouter l'interview avec Lorraine, qui a eu la gentillesse de se rendre disponible un peu en amont de cette AG radiophonique, de cet épisode spécial de Maintenant on écoute. On écoute Lorraine.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux, en quelques phrases, nous rappeler ce que c'est le planning familial, mais aussi ses différentes missions?
Alors, le planning familial, c'est une association qui est une association nationale qui a plusieurs associations départementales. Donc, c'est une association féministe, intersectionnelle, une association d'éducation populaire et qui se bat pour le droit des femmes, pour l'accès à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, qui se bat pour l'accès à la contraception, qui se bat pour l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, pour les droits des personnes LGBT, qui se bat pour l'accès à l'information sur les IST et contre les violences de tout type, les VSF, les violences excitées sexuelles, les violences conjugales.
Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as rejoint le planning et pourquoi ?
Il y a longtemps, il y avait un planning familial dans la Somme qui, au milieu des années 90, je crois, a fermé faute de bénévoles. Et il a été recréé en 2001 par un petit cercle dont je n'ai pas fait partie des prémices, mais j'étais là à la première assemblée générale. Voilà, donc ça a été un peu le moment de naissance du planning en mai 2021. Et donc j'étais à ce moment-là. Voilà, avec parfois quelques variations dans mon engagement, mais toujours là depuis 2021, oui.
Et pourquoi tu as décidé?
Oui, alors j'ai décidé parce que c'est important de se battre pour les droits des femmes, parce qu'à un moment donné, je me suis posé des questions dans ma vie sur pourquoi j'en suis là aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai traversé. Voilà, j'ai eu quelques prises de conscience, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait des thérapies et j'ai eu un besoin aussi de lutte.
On s'est rencontrés avant cet épisode-là, on s'est rencontrés lorsque tu as accepté de témoigner dans l'épisode qui parle des violences gynécologiques. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me dire pourquoi toi tu as accepté de faire ce témoignage-là personnellement ?
Oui, parce que je trouve que c'est très important que la parole se fasse. C'était pour moi pas si difficile que ça de parler de violence gynécologique. Voilà, j'ai aussi subi des violences conjugales, donc avec un impact beaucoup plus important sur ma vie et sur ma santé mentale. Donc, témoigner sur les violences gynécologiques, ça me paraissait très, très facile. Voilà. Et je trouve ça très important que, voilà, maintenant que j'ai fait un chemin, que je sais que c'est très difficile parfois de parler, qu'on est dans le déni pendant très longtemps, c'est le fait d'entendre d'autres récits qui font que on va avoir ce petit décalage sur ce petit recul sur sa vie à soi, des éléments de comparaison pour se dire que ah ben non, en fait c'est pas normal ce que je vis. Et donc voilà, je trouve que le fait de parler c'est très très important. Après, c'est une chose de parler et c'est une autre chose que de recevoir la parole quand ça se concrétise en démarche judiciaire. Donc voilà, je dis ça parce que bon, notamment on a une histoire en ce moment de violence dans le périscolaire, que on voit que oui, la parole se libère, mais que elle s'est libérée à des moments où elle n'a pas été entendue. Et où les victimes ont été dans un état lamentable d'abandon de la justice, d'abandon de l'État. Donc je parlais, oui, c'est bien, mais il faut aussi que les structures suivent derrière pour entendre la parole, pour faire justice.
Et alors au planning familial, est-ce que c'est quelque chose de fréquent pour vous de recevoir justement ces témoignages sur les différentes violences ?
Alors oui, ça arrive régulièrement. Ça arrive lors d'interventions en milieu scolaire, ça peut arriver lors de stands qu'on tient à différents événements. On fait l'été toujours une tournée estivale, donc soit dans les plages, soit dans les campings. Là, on va faire les plans d'eau cet été où on va vraiment au contact des populations. On le fait avec l'association Agena. Qui vient avec son van. Et donc là, on va vraiment au contact des populations. Et là, il arrive aussi souvent que des femmes se livrent, parfois au détour d'une conversation qui n'a rien à voir. Mais oui, ça arrive régulièrement.
Et quand ça arrive, comment est-ce qu'on fait pour entendre ces paroles, mais surtout orienter les victimes vers les bonnes structures?
Alors, effectivement, nous, notre rôle, ça va être d'orienter parce que souvent, sur une intervention scolaire où il y a beaucoup de monde, sur un stand où il peut y avoir aussi du monde, c'est pas toujours facile de donner place à cette parole-là. Alors, on oriente en premier lieu, on oriente vers Agena. Mais comme Agena a son van, là, si on reparle de la tournée estivale, le van, il est conçu d'une telle manière qu'il propose un espace d'intimité, un espace de parole. Donc parfois, ça peut se faire de manière très rapide. Il y a un espace qui est tout de suite disponible. Et sinon, parfois, on a des témoignages qui ne sont pas aboutis, qui sont juste des paroles en l'air et qu'il faut travailler. Donc on va juste semer des graines, dire que ça c'est pas ok, voilà, il peut y avoir des espaces d'écoute si jamais voilà, on renseigne beaucoup sur les numéros d'appel d'urgence, donc le 3919, donc le numéro pour les violences faites aux femmes, le numéro enfance en danger, le 119, et puis on donne aussi les numéros d'Agena.
Pour accueillir cette parole, comment on fait pour créer un climat de confiance pour que les personnes se sentent à l'aise de partager leur histoire, leur vie intime aussi?
Oui, alors c'est pas évident. Ça peut arriver quand il y a des interventions qui sont faites un petit peu au long cours et où les personnes vont revenir. Ça peut avoir lieu dans des centres sociaux, par exemple, où voilà, il y a le public du centre social qui vient régulièrement, donc qui connaît les lieux et puis qui va reconnaître la personne qui va tenir le stand régulièrement. Et petit à petit, il y a un lien de confiance qui se fait. Voilà. D'autres fois, parfois il y a des paroles qui surgissent juste parce qu'elles sentent que c'est un endroit propice à ça. Parfois il n'y a pas de grande discussion derrière, mais il y a quand même des confidences qui sont lâchées et ça permet c'est des portes d'entrée, quoi.
Et pourquoi c'est important d'avoir ce genre d'espace où la parole est libre, que ce soit par exemple avec vous, dans le van Nina et Simone,
ou même peut-être aussi à la radio aussi, ça peut être un espace libre de parole.
Eh ben, c'est important parce que tant qu'il n'y a pas de formulation, et c'est ça aussi, on aide beaucoup à formuler les choses, parce que dans les récits qui sont confiés, parfois il y a du contenu, de l'anecdote, mais il ne va pas y avoir les mots importants, les mots d'agression, de harcèlement, les mots de violence, les mots, enfin, tous ces mots-là, ils ne sont pas posés. Donc c'est très important qu'à un moment donné, ils puissent être posés, et parce que c'est une prise de conscience de la personne qui subit ces violences. Et c'est peut-être le début d'un chemin en justice, ou en tout cas d'un chemin de réparation, d'un chemin d'échange avec d'autres personnes qui ont subi des mêmes violences pour trouver des manières de s'en sortir, de survivre, de
se reconstruire. Voilà.
Et de se reconstruire, ouais.
Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, selon toi, dans la prise en compte de la parole des victimes ?
Alors, y a beaucoup de choses à améliorer, mais il y a des choses qui se font déjà. Il y a cette question du recueil des témoignages. Alors, je suis désolée, je ne vais pas avoir les termes exacts, mais enfin, il y a des unités aujourd'hui qui existent. Où il y a des médecins, des juristes, et qui vont faire en sorte de recueillir une seule fois un témoignage et de le filmer pour pouvoir le transmettre après à d'autres professionnels qui en auraient besoin. Et ça permet qu'une personne victime n'ait pas à répéter un nombre de fois incalculable son témoignage, ce qui est source de souffrance. Donc ça, c'est en train de se développer. Voilà, donc c'est bien, il y en a quelques-uns, mais il en faut encore plus, bien sûr. Et on a encore le problème de la crédibilité qu'on donne aux témoignages. C'est pas encore évident pour tout le monde, le fait de croire les victimes. Il y a encore trop de victimes dont on s'imagine que peut-être elles exagèrent, ou voilà, on va citer l'affaire Outreau pour dire bon, quand même des fois c'est inventé, alors qu'en fait le taux de témoignages qui ne sont pas vérifiés est minime, vraiment minime. Donc ça ne vaut pas le coup de remettre en question vraiment les témoignages des personnes victimes. Et voilà, ça a lieu encore trop souvent. Donc oui, je trouve que c'est important d'en parler, et que les mentalités changent, en fait. Les mentalités, non pas que des femmes, non pas que des victimes, mais aussi des auteurs qui sont majoritairement des hommes. Voilà, c'est le seul moyen pour stopper un peu ce continuum qui va de notre société, qui baigne dans la culture du viol, dans une ambiance de sexisme banalisé, et qui mène après vers des violences sexistes et sexuelles.
Et du coup, au-delà d'écouter les victimes, qu'est-ce qu'il est important de mettre en place pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en général, et plus particulièrement, qu'est-ce que vous faites au planning familial ?
Oui, alors là où ça commence, c'est par l'éducation, évidemment. Parce que si on apprend à l'école ce qu'est le consentement, ce qu'est le respect du corps de l'autre, ça aide déjà beaucoup. On a quand même une loi qui oblige les établissements à faire de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle depuis 2001. Et ça n'est pas effectif, donc c'est en train de changer. Mais on a quand même des théories fumeuses qui circulent sur Internet disant, en décrédibilisant cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et c'est un gros problème parce que l'objectif premier de ces séances, c'est évidemment de lutter contre les violences, de lutter contre les violences que chaque personne pourrait subir dans la société, dans un contexte d'école ou plus tard de travail, mais aussi dans le contexte de la famille. Et on a des cas où il y a des violences qui s'exercent de manière très, très précoce dans la vie des gens. Là, dans l'histoire du périscolaire, on a vu qu'il y avait des victimes de 4 ans, enfin, vraiment très, très jeunes. Donc c'est très important d'aller dans les écoles et d'aller dire très jeune, si t'as pas envie de jouer à la poupée avec quelqu'un, tu joues pas à la poupée. Voilà, si toi t'as envie de rester toute seule sur ton banc avec personne qui s'assied à côté, t'as le droit. Voilà, parce que c'est ça qu'on apprend dans les séances de vie affective et relationnelle en primaire. Donc voilà, ça passe évidemment par là. Ça passe par une plus grande considération des plaintes qui sont déposées. Ça passe par la formation des professionnels de la police qui accueillent les plaintes. Ça passe par la formation de tous les professionnels, en fait, parce qu'il y a énormément de violences sur le milieu du travail aussi. Donc, on peut faire des formations sur les lieux de travail. Enfin, voilà, l'éducation, la formation.
On va terminer cette interview avec une dernière question plutôt pratique. Comment est-ce qu'on fait pour contacter le planning familial ?
Alors, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, sur Facebook et aussi par mail à l'adresse planningfamilial80@ik.me.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Je vous en prie, merci à vous.
Alors, je tenais à rappeler que si vous êtes ou avez été victime de violences sexistes et sexuelles en tout genre, voilà, appelez le 3919, Lorraine l'a dit dans l'interview, et renseignez-vous auprès des structures qui peuvent vous accueillir, Planning Familial, AGENA, CIDFF. Il y a toute une liste et elles sont là pour vous écouter.
Merci beaucoup Stéphanie d'avoir partagé ce témoignage avec nous ce soir.
Merci à vous.
Merci à Lorraine du Planning Familial pour sa disponibilité et d'être venue répondre à nos questions. Un dernier petit mot pour parler de ce que nous souhaitons pour Maintenant on écoute ensuite.
Vous l'avez compris, on souhaite renforcer notre présence auprès des associations féministes mais aussi des victimes qui souhaitent témoigner à notre micro. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 20 79 39 97 et à l'adresse mail aline@radiocampusamiens.fr.
C'est la fin de cet épisode de Maintenant on écoute. Merci Sonia, Aline, Inès pour avoir participer à cette émission. Je le rappelle, c'est une émission Maintenant on écoute qui est diffusée le premier lundi de chaque mois à 10h et rediffusée le mercredi de la même semaine à 22h et en réécoute bien évidemment sur radiocampusamiens.fr.
Maintenant on écoute.
Ce qu'on a vécu, ça va être violent à écouter, mais la moindre des choses, c'est de l'écouter.
Le silence n'a jamais été sans violence.
Sors du silence.
Le silence est une immense violence.
Soyez prêts à écouter, même si ça fait peur, soyez prêts. On l'a vécu, vous pouvez l'entendre.
Faut que ça s'arrête.